Europe Soir, le 18-20, Thierry Dagiral.
Allez, on ouvre le débat des grandes voix avec ce soir à mes côtés en studio Michel Cotta, Claire Chartier de l'Express et François-Olivier Gisbert, éditorialiste au Point et Marseillais. Bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Conférence, on va dire, hebdomadaire de Jean Castex en ce moment même qui vient de se terminer. Non, pas tout à fait. Le mieux, c'est de l'écouter.
Ces départements sont au nombre de 20. Toute l'Île-de-France, une grande partie des Hauts-de-France et de Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais aussi les départements du Rhône et de la Drôme, de la Moselle et de la Meurthe-et-Moselle et enfin d'Eure-et-Loire. Nous plaçons donc ces départements en surveillance renforcée. J'ai demandé aux préfets des départements concernés d'engager des concertations avec les élus en vue d'envisager des mesures de freinage proches de celles mises en place à Nice et Dunkerque. Nous ferons un point la semaine prochaine et nous déciderons alors si et seulement si la situation continue à se dégrader. Nous prendrons des mesures renforcées qui entreront en vigueur à compter du week-end du 6 mars.
Ce sonore dure 53 secondes, tout est dit. Claire Chartier, conférence de presse pour pas dire grand-chose finalement.
Oui, on s'attendait quand même peut-être à un peu plus d'annonces, donc là c'est pas le cas. Je pense qu'il reste tout à fait sur la même ligne d'ajustement, de politique un petit peu de l'entre-deux. Bon, à titre personnel, je pense que c'est cette formule et cette stratégie de vivre avec le Covid, elle mérite en fait un peu plus de débat, je trouve.
Ouais, d'explication.
Pas d'explication, mais plutôt de débat. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi, cette expression-là? Ça veut dire qu'on laisse le virus circuler à un niveau qu'on juge acceptable. Ouais. Mais en fait, c'est beaucoup moins indolore qu'on imagine quand même. Même si des gens sont protégés aujourd'hui par les vaccins, les personnes âgées. Ça veut dire quoi, laisser le virus circuler? Ça veut dire que, en fait, plus il circule, ce virus, plus il peut muter. Et donc, en fait, plus il peut émousser la capacité des vaccins. Donc, c'est quand même un vrai problème. Ça, c'est un premier problème sanitaire. Et puis, un problème politique aussi et social. C'est qu'en fait, ça nous maintient dans un entre-deux qui n'est absolument pas vivable. Enfin, je pense que c'est vraiment tout le monde commence à le ressentir très fortement. On est quand même sous couvre-feu et c'est un quotidien qui est très pénible.
Une information quand même ce soir du Premier ministre. La vaccination des plus de 65 ans aura lieu. Elle est promise dès avril. Michel Cotta, votre sentiment, là encore, c'est en gros...
Non, moi c'est le contraire, absolument de celui-là.
Allez-y,
on n'est pas d'accord.
Exactement. Fallait pas faire peur.
Non, c'est pour ça. Je pense que la stratégie baptisée zéro virus, zéro Covid, qui consisterait à mettre les gens sous cloche complètement pendant une période indéterminée, mettons un mois, moi je n'arrive pas à comprendre comment on pense que ça suffira à arrêter le virus. Ça n'a pas suffi. On a confiné. Donc je trouve que entre le zéro. La stratégie du zéro Covid, qui est, à mon avis, non seulement inutile, mais en plus nuisible, je trouve que la proposition qui consiste à se dire « on surveille comme le lait sur le feu » est effectivement dangereuse, parce qu'on peut la reprocher, on pourra la reprocher plus tard, sûrement, au gouvernement. Mais il me semble que c'est la plus compatible avec ce que désirent les Français et ce que surtout supportent les Français, qui en supportent déjà beaucoup.
François-Olivier Gisbert, 20 départements, il faut les citer, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte d'Azur, département du Rhône, de la Drôme, de la Moselle, de la Meurthe-et-Moselle et enfin l'Eure-et-Loire. Circulaire, il y en a à voir, on reparle dans le 6 mars exactement et on verra ce qui se passe. C'était la bonne annonce.
Grosse densité de population. Alors, moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Michel Cotta, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation, à mon avis, où chacun a trouvé ses marques. On voit très bien une sorte de jeu de rôle entre les uns et les autres. Bon, il y a Olivier Véran qui nous explique que c'est une catastrophe, la situation est dramatique. Enfin, je peux le citer. Lui, c'est Docteur Follamour, quoi. C'est vraiment Dark Vador. Il nous explique tout va très mal, attention, bientôt le confinement. Il y a Castex qui a une position un petit peu intermédiaire. Faites attention. D'ailleurs, les gens ne font pas attention en ce moment. On a vu
le week-end dernier, notamment.
Ah non, mais surtout là, à Paris, c'était absolument juste incroyable. Il faisait beau, tout le monde était dehors, sans masque, comme si voilà, tout était. Enfin, voilà, on n'avait plus de Covid. Et puis, dernier point, Macron enfin, si vous voulez, n'est plus à la botte de la de ce qu'on peut appeler la République des médecins. Attention, j'adore les médecins, je
vois, mais ça fait longtemps.
Mais ce côté, ah non, ça fait très peu de temps. Je suis désolé, ça fait.
C'est vrai qu'il a dit au Conseil scientifique.
Au moins trois semaines.
Mais enfin, j'espère qu'il va tenir sur cette ligne. C'est ce que je veux dire. Évidemment, j'ai suivi l'actualité comme vous. C'est relativement récent, mais c'est quand même pas très ancien. Il a fallu attendre quand même un an, plusieurs mois avant qu'il prenne ses distances. Et je trouve que cette situation, elle est bonne, parce que l'idée qu'on va s'en sortir, alors là, Claire, je suis désolé, avec un nouveau confinement, moi je pense que,
Mais
il faut à tout prix éviter ça. Sur le plan économique, c'est une évidence, je dirais aussi sur le plan psychologique. C'est-à-dire, les gens n'en peuvent plus. On va pas, si vous voulez, quand vous avez dans vos relations, je suis sûr que ça vous arrive, des psychiatres, ils vous disent très bien que ce qu'ils voient en ce moment, c'est juste atroce. Alors, c'est-à-dire des gens, je ne parle pas des gens qui sont en train de perdre leur boulot, je ne parle pas des restaurateurs, je ne parle pas de catégories de la population qui sont en panique. Non, enfin, vous voyez...
Y a, la parole et, à pas, la défense
le, oui, mais la, le Claire confinement Chartier. N'est pas la solution. Alors, il faut essayer de l'éviter
pour être le plus possible.
Pour être plus précis, la stratégie zéro Covid, ce n'est pas que le confinement, en fait. Hein. C'est d'abord, effectivement, taper fort avec un confinement de 4 semaines pendant lesquelles on se met en ordre de bataille, c'est-à-dire qu'on se donne les moyens vraiment de tracer, d'isoler, de contrôler les gens qui sont à l'isolement. Enfin, il y a tout un ensemble de mesures qui font qu'une fois que vous sortez de là, vous avez donc nettoyé certaines zones et dès que ça repart dans un endroit, si j'ai bien compris, cette zone-là, elle est à nouveau vraiment verrouillée, chose qu'on n'a pas du tout fait. On n'a pas préparé avec les confinements précédents, notamment le premier, on n'a absolument pas préparé l'après-confinement. Donc là, cette stratégie-là, elle est plus large, elle s'élabore aussi au niveau européen, donc ça permet aussi, en fait, c'est une stratégie qui considère des zones et non pas simplement des pays. Et donc, moi, je trouve ça assez cohérent. Dans le détail, j'invite les auditeurs à les regarder. Et puis, un autre avantage, c'est que là, aujourd'hui, on vit au jour le jour, constamment. En plus, avec la perspective, quand même, de se dire qu'on va être reconfiné. Alors que là, ça vous donne une perspective. C'est-à-dire que vous savez que vous allez être confiné un certain temps et qu'ensuite, des choses vont se mettre en place. Donc, je trouve que sur le plan psychologique, notamment, cette perspective qui nous fait tant défaut aujourd'hui et qui mine l'esprit des gens, vraiment le mental des gens, là, on pourrait la retrouver.
Michel Cotta, est-ce que ça peut coûter cher à Emmanuel Macron ? Il y a un mois, il a décidé, alors que les médecins dont parlait France le demandaient, de ne pas confiner. Visiblement, ce n'est pas la bonne stratégie.
Certains médecins,
ce n'est pas la bonne stratégie. On voit les chiffres.
Non, mais écoutez, d'abord que ça change, que la situation change de jour en jour, on le voit, mais c'est le virus qui change de jour en jour. Alors effectivement, oui, je crois que ça peut à la fois rapporter gros et coûter cher. À Emmanuel Macron, voilà, c'est un...
Coûter cher, ça veut dire que là, il joue son élection, il joue la présidentielle.
Oui,
là-dessus.
Mais enfin, écoutez, franchement, moi, je vais vous dire, hein, parler d'élection, là, maintenant...
C'est dans un an et deux mois.
Oui, mais d'accord, mais ça m'ennuie. J'ose pas, quoi. J'oserais pas parler aux gens. Parce que d'élection, parce que c'est vraiment... Non, mais je crois qu'on a un seul espoir. La course de vitesse, elle n'est pas dans le confinement, elle n'est pas dans un reconfinement, elle est dans le vaccin, point final.
Alors,
c'est le seul... D'accord, ça va comme ça peut, mais ça va.
Non, mais le paramètre au niveau, c'est celui-là. C'est-à-dire que ça, moi, je trouve qu'elle serait cohérente si on se disait qu'effectivement, le vaccin arrive. Le problème, il y a deux paramètres qui se sont invités dans l'affaire et qui n'étaient pas prévus, c'est que les doses, elles mettent autant de temps parce que les laboratoires ont effectivement beaucoup de problèmes à produire, chose à laquelle on ne s'attendait pas. Et puis ces fameux variants. Donc ces deux paramètres, quand même, changent la donne.
François-Olivier Gisbert, le Conseil scientifique a publié aujourd'hui une note du 29 janvier. Elle prévoyait une augmentation rapide et importante du nombre de cas et des hospitalisations si les mesures actuellement mises en œuvre ne sont pas renforcées. Cette note et le Conseil scientifique proposaient un confinement national dès le début février.
Donc je ne sais pas très bien où ils habitent, eux, mais de toute façon, les mesures qui sont déjà décidées ne sont pas toujours respectées. Enfin, il suffit de se promener dans la rue. Il y a plein de gens sans masque, il y a beaucoup d'attroupements. Je ne parle pas des petits cafés où on continue à vous servir à boire. Bon, il y a un certain nombre de règles de base qui ne sont pas respectées. Je pense qu'il faudrait d'abord respecter ces bases-là. Et ensuite, pour revenir à la situation actuelle, moi, je suis très heureux de voir que le gouvernement, justement, je veux dire, agit au jour le jour, parce que c'est comme ça qu'on va vaincre le virus. Ferme ici, bloque un peu là, ouvre là, parce que c'est comme ça que ça va marcher. L'idée de départ qui était d'une bêtise abyssale, c'est-à-dire c'était le comité scientifique, tous ces trucs, on vous annonçait ça dans... et alors on va faire ça dans toute la France, y compris d'ailleurs en Guyane, parce que ça restera historique quand même, c'est-à-dire qu'on déconfinait en Guyane hein, parce qu'on déconfinait toute la France, donc la Guyane c'est la France, on déconfinait en Guyane au moment même où le virus arrivait en Guyane. Non mais il faut vraiment être taré comme un énarque ou comme un dirigeant politique français pour faire ça. Donc mais aujourd'hui pays, ça... c'est justement une stratégie radicalement différente où on va regarder un peu ce qui se passe à Nice, regarder ce qui se passe à Dunkerque.
Les pays où ça a vraiment
peut-être
marché,
la Chine, si rapidement,
pas
et puis
que
on,
les pays asiatiques, aussi au Danemark qui ont appliqué cette même stratégie que j'évoquais avant. Donc c'est là où, ça, où là ça a été beaucoup plus éradiqué, où l'économie se porte aujourd'hui beaucoup mieux. Donc
c'est plus petit hein, quand même.
Bien entendu.
Plus mais petit y a... que la France. Dans les petits pays comme Israël et tout ça, c'est quand même plus facile que les grands.
Allez, Michel Cotta, Claire Chartier et Franz-Olivier Gisbert ce soir pour le débat des grandes voix. Vous restez avec nous. On revient dans deux minutes. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20. Thierry Dagiral.
18h45 sur Europe 1, on poursuit notre débat des grandes voix avec ce soir Michel Cotta, Claire Chartier et Franz-Olivier Gisbert. On parlait bien sûr des annonces de Jean Castex en ce moment même. Dernière annonce, il a promis la vaccination pour tous les plus de 50 ans d'ici la mi-mai. Je voudrais juste revenir sur un point. Et ce soir, il dit finalement, c'est aux élus de prendre la décision, de parler entre eux et de décider. On retrouve le Jean Castex finalement du discours de politique générale à la mi-juillet.
Enfin.
Enfin.
Ça a mis du temps. Ouais, ouais.
La force au territoire.
C'est évidemment ce qu'il fallait faire depuis le début. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre des mesures comme ça sans discuter, parler avec les élus. D'ailleurs, on le voit très bien. Bon, il y a des élus irresponsables. Il y en a eu quelques-uns, on les a entendus. Mais il y a aussi des élus extrêmement responsables. Je pense à Christian Estrosi, le maire de Nice. Je pense au maire de Dunkerque. Enfin, quand on les entend, ce sont des gens sérieux.
Qui réclament le reconfinement, le week-end.
Qui réclament des mesures, etc. Ouais. Donc, c'est important qu'ils soient là-dedans. Enfin, l'idée que de court-circuiter tout ça et de faire des mesures qui tombent d'en haut, d'on ne sait où, prises par des comités théodules, enfin, c'est une absurdité totale. On est sorti de là, Dieu merci. C'est pour ça que je trouve que ça va mieux.
Michel Cotta.
Enfin, ça va mieux, ça va mieux. Les vaccinations, c'est la catastrophe
le seul
française.
Problème, hein. On voit bien que le seul problème est qu'il y a des régions où les élus n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ça n'a pas été le cas des Alpes-Maritimes, mais enfin, ça aurait pu l'être. Donc, quand les élus ne sont effectivement pas d'accord que les petites villes en arrière du pays disent « Ah ben non, nous, on ne veut pas, on a déjà eu des catastrophes, on ne veut pas recommencer », c'est plus compliqué, voilà.
Non, est-ce qu'on peut se réjouir aussi, finalement, que l'instrumentalisation politique est pas mal diminuée aussi, parce qu'on a vu quand même beaucoup d'élus jouer cette carte-là, beaucoup étaient dans l'opposition, et utiliser, en fait, cette problématique-là pour encore ça, affronter le... Bon, là, on n'est plus dans ça, dans ce jeu-là, et ça, on peut s'en réjouir, oui, en effet.
On avance un peu. Je voudrais qu'on parle de ce fameux passeport vaccinal, le Conseil européen, qui a lieu en ce moment même, d'ailleurs, un plan sur la question. L'Europe semble désunie sur le sujet, la Grèce, le Danemark, l'Italie, l'Espagne sont prêts à lancer la procédure dès que possible, avant les vacances d'été. De l'autre, eh bien, on a nous, la France, l'Allemagne, la Belgique, qui considèrent le sujet comme prématuré. Est-ce que, selon vous, les grandes voix, ce passeport vaccinal, est-ce qu'on peut vraiment y échapper, Franz-Olivier Gisbert?
Je pense qu'il faudrait peut-être d'abord savoir où on en est sur le plan vaccinal. Mmh. Et ce n'est pas être anti-France de dire que c'est la situation de la France, sur ce plan, est absolument catastrophique. Quand on voit les chiffres des autres, alors je ne parle pas des Émirats Arabes Unis qui sont à 60%, je ne parle pas non plus de l'Israël qui est très très haut, enfin bon, y compris des États-Unis d'ailleurs, où il y a un effort considérable. Je ne parle pas de la Grande-Bretagne qui se rattrape de toutes les conneries faites par Boris Johnson, parce que ça vaccine, et c'est ce qu'on devrait faire, nous. Alors, on ne sait pas ce qui se passe, et la bureaucratie, les comités théodules, les réunions de l'ARS interminables, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, on réussit à faire moins bien que la plupart, presque tous les pays européens. Moins bien que la Pologne, moins bien que la Hongrie, moins bien que la Roumanie, moins bien que l'Espagne, moins bien... Enfin, c'est juste hallucinant.
C'est
la question. Oui, mais enfin, il y a toujours une raison. En tout cas, on a les mêmes doses, on devrait pouvoir vacciner. Il y a un truc qui ne va pas.
Allez, la parole circule. Claire Chartier.
Non, sur le passeport, en effet, pour l'instant, c'est complètement prématuré parce que ça n'a de sens que si tout le monde peut être vacciné. Parce que la question,
mais
c'est
justement,
quoi
est-ce qu'on va être obligé de s'y mettre parce que l'Europe aura décidé de s'y mettre?
Mais déjà, le problème, il y a un problème si, effectivement, tout le monde n'a pas égal accès à la vaccination et donc au passeport. Donc ensuite, il va se poser un autre problème. C'est que certains vont dire, moi, j'ai décidé de ne pas me faire vacciner, il n'y a pas de raison que je sois privée de tel ou tel service parce que j'ai fait ce choix. Et c'est là où, à mon sens, c'est une vision totalement restrictive de ce que sont les démocraties libérales. Je veux dire, on a l'idée que les libertés individuelles doivent s'exprimer pleines et entières et qu'elles ne sont jamais conditionnées par l'intérêt collectif. Bah si, dans les sociétés libérales, bien sûr que si, il y a quelque chose qui s'appelle l'intérêt collectif, le bien, la poursuite du bien commun. Et donc, il n'y a aucune raison pour que l'intérêt de quelques-uns prime sur l'intérêt collectif. Donc, à ce moment-là, mais on n'en est pas à ce débat-là, mais en tout cas, je pense qu'il faudra le dire d'une façon très, très nette. Effectivement, aujourd'hui, l'horizon, cet horizon-là, l'horizon collectif, c'est plus un horizon partagé. Et c'est là le problème.
Michel Cotta, je voudrais vous entendre là-dessus.
Entièrement d'accord avec ça, mais simplement il s'imposera de toute façon. Les compagnies aériennes diront vous prenez l'avion, vous partez en Asie si ça. Vous êtes vacciné. Et puis les gens diront si vous n'êtes pas vacciné, trois semaines de, quand vous arrivez sur notre à Pékin, trois semaines
de quarantaine.
Bon, voilà, ça marche. Le moment, on peut à peine en parler, c'est tout, parce qu'on est trop peu vaccinés.
Mais ça pose des questions d'éthique, ça pose des questions juridiques.
Oh, éthique.
Ça, quand même,
éthique pour qui,
parce que c'est question éthique. Mais regardez, je reviens toujours là-dessus, mais regardez les pays où ça marche. Taïwan, regardez la Corée du Sud, les restaurants sont ouverts, les gens circulent, et on ne parle pas de confinement, etc. Mais c'est pas moi, il y a des règles qui sont respectées.
Mais ça pose des questions d'égalité individuelle. Des droits,
même. Mais non, mais c'est pas un problème de droit.
Les jeunes qui seront vaccinés tardivement, finalement, seront les derniers.
Attendez, il faut mieux être confiné, il faut mieux être mort. Non, mais c'est des questions comme ça, c'est très con comme question, et c'est la réalité.
Si on n'est pas en place, à ce moment-là, on fermera, on laissera fermer tout, les musées, tout le reste, parce que quelques-uns ne se seront pas vaccinés.
Il faut effectivement prendre des décisions.
De toute façon, quand on se fait vacciner, quand on vaccine les enfants à deux mois, on ne leur demande pas leur permission.
Bah oui.
Donc il y a des vaccins obligatoires, obligatoires.
Et Thierry Breton, le commissaire européen à l'industrie, promet 2 à 3 milliards de doses produites par an dans l'Union européenne d'ici 2021.
Oui, c'est ça.
L'accès à la vaccination sera donc massif dès l'année prochaine. Claire Chartier.
Alors, une bonne nouvelle.
Oui. Non, je pense que effectivement, enfin en tout cas, on peine à croire que nous allons être très majoritairement vaccinés d'ici la fin de l'été, comme s'y est engagé Emmanuel Macron. D'ailleurs, c'était assez risqué quand même. Pour revenir juste un instant sur Jean Castex, une pensée pour lui quand même, parce que le pauvre, il n'existe pas. Hein. Il n'existe que au travers des bulletins hebdomadaires qu'il nous transmet sur l'état de la nation sous Covid.
Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ?
Je ne sais pas, j'imagine que... En tout cas, Édouard Philippe, il faisait autre chose. Il avait une autre stature, une autre consistance. Là, il est quand même très réduit dans ça.
Il y a un très bon portrait dans Le Point de cette semaine, justement, sur les coulisses.
Très bon journal, d'ailleurs.
Très bon journal de Jean Castex, finalement, qui existe, incarne la fonction de Premier ministre, Michel Cotta.
Donc il est exactement dans le cadre de la fonction du Premier ministre de la 5e République.
On peut le, il fait le sale boulot, il est pompier.
Non, il met l'intendance, il essaye de mettre l'intendance derrière les vœux du président. Alors ça n'était pas le cas d'Édouard Philippe, mais à mon avis...
Même Fillon avec Sarkozy, il avait beaucoup plus de tessiture aussi. Je trouve que ce n'est pas du tout forcément...
Chacun
réagit comme il peut, c'est son personnage.
C'est quelqu'un qui joue pas sa carte personnelle, c'est très rare, parce qu'on peut citer d'autres prémices. Effectivement, Édouard Philippe, il avait un parcours à part, il continue à jouer sa petite carte, et il continue à avoir un parcours à part. Vous citiez François Fillon, c'est pareil, après on peut continuer à remonter, quart, etc. Et là, zéro, c'est-à-dire, il se met vraiment...
C'est peut-être pour ça qu'il a été choisi, d'ailleurs.
Mais oui, alors, le souci, c'est que ça marche. On a une crise. Moi, je trouve qu'il a son utilité là, et notamment, il l'a eu, en tout cas, en remettant les élus sur le devant de la scène.
Et ça veut dire quoi, qu'il est dans une posture sacrificielle ?
Oui, absolument, tout à fait, ça vous l'avez dit, c'est le mot. Il a fait don
et il est là pour faire le fusible
à la France, comme disait l'autre.
Mais c'est vrai que ça accentue encore ce travers qu'on a quand même de présidentialisation. Là, on a un virus de la présidentialisation parce qu'on a un Premier ministre qui existe, donc vraiment pas beaucoup. Ouais. Un Parlement qui, dont l'activité, évidemment, par les circonstances, est quand même limitée. Et donc, un président qui, alors lui, il va au feu. On nous dit même qu'il lit toutes les études scientifiques à tel point qu'il est presque aussi capé que les scientifiques qui font partie du Conseil du Nouveau.
C'est vrai que
là. Non, mais là, il est vraiment tout seul face à l'adversité.
Michel Cotta, sur la répartition des rôles en ce moment entre le président et son Premier ministre.
Mais oui, je viens de dire que je trouve que c'est normal pour un Premier ministre.
C'est exactement ce qui est prévu dans la 5e, finalement.
Enfin, c'est normal pour un Premier ministre qui ne veut pas avoir une carrière après c'est-à-dire qui ne joue pas, qui, comme Pompidou disait, vous rappelez que Pompidou disait qu'il avait pensé qu'il serait un jour président de la République en montant la marche de Matignon. Bon, bah lui, c'est l'anti-Pompidou de ce point de vue-là.
C'est l'anti-Pompidou, François-Olivier Gisbert.
Ah oui, tout à fait. Je trouve que c'est quelqu'un qui... c'est intéressant parce que c'est peut-être le premier cas à ce point. Il y avait eu déjà Mesmer. Hein, sous Pompidou d'ailleurs, c'était
c'était plus un soldat.
Voilà, c'était quelqu'un qui il avait sa personnalité d'ailleurs. Il parlait du président de la République à l'époque, avait une grande liberté de parole, hein, parce que quelqu'un qui était très intelligent, mais il jouait pas sa carte. Rien à foutre, d'ailleurs, il s'est pas présenté à la présidentielle quand Pompidou est mort, à la surprise générale, parce qu'il aurait pu en 1974. Et effectivement, c'est peut-être le premier cas du premier ministre qui se sacrifie. Après tout, c'est un poste, on dit souvent, il faut le supprimer. Et ben, quand on voit le comportement de Jean Castex, il y a peut-être des présidents de la République à venir qui vont se dire,
avec
Jean Castex, finalement, c'est agréable.
On évoquait les élus, on aurait peut-être plus le voir sur ce front-là, dans le dialogue avec les élus, puisque c'était une carte qu'il avait jouée.
Ça, c'est de la com, excusez-moi, il le fait.
Oui,
ça.
Mais c'est de la com, mais c'est aussi important dans précisément la façon dont il est perçu auprès de l'opinion publique. C'est de la com, mais ça fait partie aussi de
la réalité. On sait qu'il les appelle, qu'il est. C'est un Premier ministre qui fait
Michel,
pas de com.
Michel Cottin.
Premier ministre sans com.
Bah oui, c'est bien.
Sondage, regardez.
Ça change.
Regardez, je lis ce sondage. 60% des Français pensent qu'il y aura un troisième confinement national dans les prochaines semaines, une hausse de 12 points par rapport à la semaine dernière. 59% des Français jugent par ailleurs qu'Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur. Claire Chabon.
Ça fait partie de la défiance.
C'est
un autre débat. Hein. On pourrait beaucoup parler et faire même une autre émission sur la défiance vis-à-vis des politiques.
Sur la gestion de cette crise par l'exécutif en ce moment même.
Excusez-moi, la gestion n'a pas été bonne depuis le début. Elle était très exécrable sur les masques, puisqu'il paraît que ce n'était pas nécessaire.
Sondage Odoxa.
Très en retard sur les dépistages. Mmh. Enfin bon, il n'y a pas eu l'idée tout de suite de regarder qu'est-ce qui se passe dans les pays où on est confronté à des épisodes comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Et on sait très bien, c'est confinement individuel, dépistage,
c'est bien
etc.
Masque,
ce qu'on a mis du temps à faire.
C'est ils ont appliqué la stratégie zéro Covid, ce pays.
On n'est pas tous en même temps. La Chine, l'exemple coréen aussi. C'est-à-dire, bon... Ça, on ne l'a pas fait. Et là, aujourd'hui, sur la vaccination, on est en retard. On est derrière les autres.
Ça, vous l'avez dit, France. On a compris. Vous le répétez en boucle depuis deux heures.
Dans les médias.
En attendant, c'est très bon, l'exemple chinois.
Mais je le dis pour
ça,
parce que la France est un
pays. Non, mais la Corée du Sud et le Taïwan, c'est un pays démocratique.
Le mot de la fin avec vous, Claire Chartier.
Non, juste pour terminer, je ne suis pas sûre. Au contraire, moi, je pense que la stratégie d'ajustement, en revanche, on pourra moins lui reprocher à Emmanuel Macron qu'une stratégie plus radicale. Et c'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi.
Michel Cottin, Claire Chartier et François-Olivier Gisbert ce soir pour le débat des grandes voix. Merci, merci à vous trois, merci beaucoup.
Europe 1, Thierry Dagiral.
Et on se retrouve dans quelques secondes sur Europe 1 avec le journal de 19h. On va bien sûr revenir sur la conférence de presse de Jean Castex. A tout de suite.